La revue de presse Claude Askolovitch, on parle d'Europe ce matin.
Et c'est un signe des temps, on en parle en passé. Le Point méchamment nous raconte à quel point nous fûmes cruels et grands, nous autres Européens que l'on confondait avec des dieux, quand le terrible Cortés et ses conquistadors pénétraient Tenochtitlan, capitale aztèque, blanc de visages et de mains, disaient les Indiens fascinés, et ses mains crachaient le feu. Et quelle épopée que celle de ce continent messianique dont les grands pays se partageaient le monde, continent qui par la ruse, le commerce et la guerre, par ses mythes et sa technique, a servi la Chine. Mais tout s'est retourné depuis le suicide de 1914 et un diplomate indonésien dont le Point nous incite à la modestie. L'Europe s'est inversée. Peut-on encore éviter le naufrage? Se demande l'Express. L'Obs, lui, est allé en Bulgarie, au bout de l'Union, et l'on s'apitoie. Car il n'est pas en Europe de ville plus démunie et polluée que Vidin, où sur les rives de Danube, la végétation envahit des carcasses d'usines et des villas en ruine dans ce qui fut fière cité des Balkans. Quand le PIB est le même là-bas qu'en Angola, un peu plus de 3000 euros par an et par habitant, et l'on tous à Vidin, où l'on se chauffe au bois et au charbon, ou bien pauvre, au vieux chiffon, on regrette le communisme, et l'on fuit la Bulgarie pour l'Angleterre, mais l'Angleterre elle-même offre en Europe un affreux spectacle. Le Figaro fait sa une sur la comédie électorale britannique, où l'europhobe Nigel Farage parade sur ses sondages et jure qu'il va sauver la démocratie, mais il y a pire venu d'Albion que ses pantalonnades. C'est dans Le Monde, la perversion du crédit universel, une allocation unique qui a fait perdre 400 livres, 457 euros par mois à Claire qui ne s'autorise plus rien et dont le frigo est foutu. C'est l'abêtissement de la conscience que décrit Arrêt sur image qui raconte le bal des tabloïds anglais autour d'une émission de télé-réalité vouée à la destruction des familles. Un participant révélé adultère s'est suicidé. Que reste-t-il à l'Europe? Il reste l'espérance d'un militant, Laurent Berger de la CFDT, nouveau patron de la Confédération Européenne des Syndicats, et qui dans Ouest-France réclame un salaire minimum dans l'Union. Il reste dans Le Monde le pragmatisme de l'historien Yuval Noah Harari qui nous demande d'aller voter pour préserver cette expérience unique de coopération. Et il reste une culture. Et dans Le Figaro ce matin, vous avez le meilleur de l'Europe si vous tournez les pages pour aller dans ce cahier littéraire qui est le plus précieux de ce grand journal. Et là, vous verrez un vieillard si beau de bientôt 106 ans. Il se nomme Boris Pahor et vit sur les hauteurs de Trieste, au nord de l'Italie, jadis d'Autriche-Hongrie, et de chez lui voit l'Adriatique et les Balkans. Pahor est écrivain de langue slovène, nobilisable dit-on, son chef-d'œuvre vieux de 52 ans s'appelle « Pèlerin parmi les ombres ». Il racontait son voyage aux enfers des camps de concentration. Il est pétri de langue et témoigne, dit le Figaro, d'une Europe disparue. Disparue, je ne sais, mais que nous fûmes beaux d'avoir Pahor et chanceux de le découvrir encore.
La Dépêche, Claude, revient sur la mort d'une religieuse française en Centrafrique.
Carines Nieves Sancho, franco-espagnole, était du Tarn, d'une communauté de massacrants qui envoie ses filles de Jésus aider des villageois loin de notre Europe. Et c'est aussi l'histoire de notre continent. Et les sœurs, me dit la Dépêche, ne veulent pas parler de la mort de leur ami égorgé, mais de ce qu'était sa vie. Quant au village de Niola, elle était assise au milieu des femmes en train de coudre. La sœur d'Inès, Elisabeth, me dit que ce petit bout de femme était entièrement aux autres. Quelle belle épitaphe. La Ville hebdomadaire est aussi en Afrique, dans un centre d'apprentissage géré par d'autres sœurs en République démocratique du Congo. Parmi les pensionnaires, il y a Yvonne et Julienne, qui furent des Yamahama, des jeunes filles, soldats, qui avaient rejoint une milice en révolte contre le pouvoir central, milice qui faisait monter en avant des gamines persuadées par des rituels d'être dotées de pouvoirs magiques, capables de détourner les balles de leurs jupes. Dans les combats, j'étais devant pour faire fuir les militaires. Dès qu'ils me voyaient, ils décampaient, je pouvais aussi me transformer en oiseau ou un morceau de bois. Nous décapitions les militaires qui venaient nous attaquer et les gens des villages qui étaient contre notre pouvoir, nous buvions leur sang. Et c'est dans les paroles de ces gamines et dans la vie un voyage au bout de la misère et de la magie noire. L'église ballottée recueille de jeunes humains détruits, mais ils apprennent encore à l'école. Il faut cette espérance.
Plus rapidement, Claude, pour finir, du sable
dont Mathieu Vidard nous parlait tout à l'heure dans sa chronique. Le sable qui va manquer sur cette terre, nous dit l'ONU, Sud-Ouest l'illustre, dans les dunes d'Aquitaine aussi menacées, la planète glisse, l'Andalousie, me dit Télérama, sera peut-être un jour un désert. Le Provence me dit que nous ne pourrons jamais récupérer le plastique qui envahit la Méditerranée, alors qu'une mission d'exploration, la Goélette Tara, en une des DNA, est venue évaluer nos dégâts irréversibles. L'Amérique, pendant la guerre froide, a enfoui des déchets radioactifs de ses essais nucléaires dans du béton sur un atoll du Pacifique, mais la structure est délabrée et le poison pourrait sortir. S'inquiète M. Gutiérrez, secrétaire général de l'ONU, et l'humanité. Le poison, j'en termine, est partout et même dans nos jeux. L'équipe le révèle. Des fongicides utilisés pour protéger les parasites des pelouses de nos stades de Ligue 1 pourraient être dévastateurs pour la santé des champions. On parle de cancer et de Parkinson. C'est une sorte de folie que la peau des joueurs soit en contact direct avec la pelouse, dit un chercheur du CNRS. L'équipe n'en fait pas la une. Je dirais heureusement comment vivre après ça.
Merci Claude pour la revue de presse.